Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Mouloud Achour et vous écoutez ClickX en podcast. ClickX, c'est une série de conversations avec des personnalités que j'ai eu la chance de rencontrer au fil des années pour un échange longue durée. Tous les épisodes de ClickX sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Click, c'est quand vous voulez sur MyCanal et le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+. Et aujourd'hui, Damso.
La vie s'est transformée quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire jusqu'à ce qu'elle devienne ordinaire à nouveau. Ne crois pas en tes rêves, réalise-les. Fais ce qu'il te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres, et pas le contraire. Remercie Dieu pour chaque ennemi qu'il mettra sur ton chemin, car c'est l'acharnement de tes adversaires qui définit la grandeur de tes bénédictions. Fais attention aux femmes qui feront attention à toi dans le but de combler leur manque d'attention. Ne passe pas trop de temps à essayer d'être ce que tu n'es pas, car tu finiras par croire que tu l'es vraiment. Accepte la fin de quelque chose pour en construire une autre.
Ça fait un petit moment que t'es en silence.
Ouais, que je suis dans mon coin un peu.
Il y avait un côté plus universel que dans les autres albums, dans Lithopédion. Notamment, tu donnes une définition du métissage, qui est celle entre le passé et l'avenir. Et le noir dont tu parles tout le temps, on comprend que c'est le noir de l'âme.
Exactement.
Que l'homme est pourri dès sa naissance, qu'il est très compliqué d'aller contre cette noirceur.
Bah, je sais pas si on est pourri dès la naissance, mais je pense que on nous pourrit dès la naissance. Moi, je pense que c'est plutôt ça. On nous pourrit dès la naissance, mais je le vois même avec mon fils, comment je l'éduque. La plupart du temps, je l'éduque par rapport aux gens. Quand il fait du bruit, moi, ça me dérange pas forcément, mais je me dis que ça va déranger l'autre personne, alors je l'engueule. Mais pour lui, il fait pas de bruit. Il s'amuse, tu vois. Donc du coup, on te met déjà dans une sorte de carcan et on te pourrit, en fait.
Ouais. Donc pour ton enfant, déjà, l'enfer, c'est les autres. Les autres
leur posent des contraintes. Ouais, je pense que c'est ça, l'éducation. On doit te montrer que tu dois fermer ta bouche et respecter les autres. Fermer ta bouche, c'est respecter les autres, en fait. Te priver d'espace, c'est respecter les autres. On t'apprend pas à apprendre à faire profiter tout le monde de ton espace. On t'apprend à juste le réduire pour que chacun ait son petit espace. Donc déjà, ça, tu te tues, en fait.
T'as reçu quel type d'éducation, toi?
Comme tout le monde.
Non, pas comme tout le monde. Il y a plein de gens, je peux te dire, qui n'ont pas la même éducation.
Ouais, peut-être, c'est ça. Ouais. C'est vrai que ça, c'est juste ma vision. Mais dire comme ça, c'est difficile. Respecte les gens, respecte les aînés.
Valeur travail?
Oui, énormément. Mais plus travail à l'école. L'autre partie du travail qui n'était pas de l'école, ça, c'est... J'ai dû m'éduquer tout seul. Mais c'est surtout étudier, sois intelligent, sois pas bête. Plus l'inverse, en fait. Pas sois intelligent, mais sois pas bête. Je crois que ça m'a aidé. Ouais.
C'est quoi quelqu'un de bête pour toi?
C'est quelqu'un qui refuse d'être intelligent. Parce que d'être intelligent, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de calme, ça demande trop de choses, en fait. Alors, si tu fais pas tout ça, bah tu... T'es bête, pour moi c'est un choix. Si t'es un débile mental, c'est pas de ta faute. Mais si t'es bête, c'est de ta faute, c'est un choix. C'est une paresse intellectuelle un peu.
C'est marrant que tu parles de cette paresse parce que moi j'ai vu dans... Ça fait 3-4 ans qu'à chaque fois que je vois des interviews de toi, dans des journaux spécialisés comme dans la presse généraliste ou à la télévision. Et cette paresse intellectuelle, je la vois. Mais je la vois comme une forme de racisme. Elle me dit, on nie son intelligence. C'est-à-dire qu'on te l'enlève, cette intelligence, qu'on t'enlève le second degré, qu'on t'enlève la capacité à respecter la femme, qu'on t'enlève ton romantisme, parce qu'en fait, c'est des albums romantiques.
Ouais, ça dépend comment on voit le romantisme, mais c'est... Bah, je pense que les gens sont juste comme ils sont. Si on veut m'enlever pas mal de choses, ils n'enlèveront juste pas mon art. C'est ça qui, moi, qui me permet de continuer. Mais,
tu comprends de quel racisme je te parle?
Ah, très très bien, monsieur. Bien sûr, c'est...
C'est le racisme ordinaire dont tu parles dès les premières rimes de l'Italie.
Ouais, bien sûr. Ce racisme que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Mais on se voile la face, on dit rien, on avance.
Là, t'es apaisé, mais j'imagine qu'avec la recherche qu'il y a sur tes mots, ça se voit que tu classes tout. Ça se voit que tout est recherché, que tout est étudié de la moindre...
Ah, chez moi ou chez les autres?
Chez toi, mais de se faire résumer.
Tu sais, c'est pas... Pour ça, qui me résume, c'est les gens qui écoutent pas mes textes, enfin qui écoutent pas mes sons. Donc je m'en fous en fait. Parce que si c'était des mecs qui écoutaient mes sons et qui les saignaient et qui faisaient une chronique là-dessus et qui étaient désavantageuses, voilà, là à la limite tu peux te poser des questions. Mais quand c'est un mec qui n'y connaît rien, tu peux pas vraiment le prendre au sérieux. Moi c'est comme ça que je vois la chose, donc je zappe. Moi je me casse la tête, mon public kiffe, je remplis des salles de concert, j'avance. Qu'est-ce que je peux demander?
Tu gardes quel souvenir de tes expériences à la télé française?
Ah, bah je crois que j'ai fait qu'une télé. Et c'était pas... Je trouve que c'était un peu le mec que j'étais d'Amso, le mec qu'il fallait un peu clasher, un peu essayer de... Je l'ai pris comme ça en tout cas. Mais je pense que c'est leur métier. Je crois que quand t'invites un mec comme moi qui est dans la polémique, il y a tout ce jeu où t'as envie de me mettre un peu dos au mur, tu vois. Mais
de quelle polémique tu parles? Moi, j'arrive pas à te mettre dans une polémique.
Bah, apparemment, je suis misogyne, Bah, je crois que c'est un peu ça, le gros truc. J'ai des textes forts, violents, vulgaires, qui insultent la femme et tout ça, tout ça.
Pourtant, tu dis que c'est plus de l'homme dont tu te méfies.
Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'il m'écoute pas.
C'est la phrase que je retiens du dernier album. Ouais, c'est « Méfie-toi beaucoup plus de l'homme que de la femme ».
Mais il n'écoute pas mes sons. Par exemple, là, je vois que t'as écouté. Mais je veux dire, j'ai des débats, c'est des débats de sourds en fait. C'est les mecs qui écoutent pas ce que tu fais, qui veulent te dire ce que tu fais. Et en plus de ça, dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Sans écouter non plus. Je veux dire, moi, je vais pas rentrer dans un débat, ça sert à rien.
Il y a une association d'idées qui est super intéressante, que j'aimerais qu'on développe. C'est un moment, tu parles de Florent Pagny.
Ouais.
Tu parles des devises monétaires en Afrique.
Ouais.
Quand tu parles de liberté de penser et que tu relis ça... Mmh. À la réalité économique des colonies, des gens qui sont issus de l'immigration.
Bah c'est des trucs qui sont juste devant nous, on fait pas attention. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on parle de liberté, égalité, fraternité, mais qu'on produise encore l'argent des autres. Il y a un gros problème même en fait, c'est énorme. Mais il faut quand même que les gens sachent que CFA, c'est colonie de France d'Afrique. Quoi. Je veux dire, on est en 2018 quand même, c'est chaud, tu vois. Mais bon. Ça passe comme ça, les gens sont habitués.
Toi, par exemple, qui viens du Congo, qui est maintenant en Belgique, comment est-ce que tu te sens intégré dans ce pays, dans cette culture? Est-ce que tu t'es senti tout de suite accepté?
Il y a eu du racisme quand je suis arrivé, c'est clair. Mais ce qui est bizarre en même temps, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mixité, parce que du coup, j'ai rencontré pas mal de gens comme moi. Et puis du coup, quand tu rencontres des gens comme toi, tu rencontres des gens qui sont pas comme toi, mais qui kiffent les gens comme toi, parce qu'on est tous différents. Et ensuite, tu vois quand même des gens qui sont encore racistes quand tu vas postuler, parce que j'ai postulé. Et je vis dans ça, en fait. Et je vis dans cette bulle où t'as énormément de racistes, et puis t'as des gens qui le sont vraiment pas. C'est dans ça que je vis. Il y avait des gens dans ma classe qui, eux, allaient tous les ans... C'était au Congo, mais c'était à Goma, je crois. Faire des voyages, des missions pour aider des personnes. Puis t'as d'autres personnes qui, au contraire, sont racistes. Mais le racisme existe encore.
C'est une émission en Belgique qui s'appelle « Ça ne rendra pas le Congo ».
Ah ouais, mais c'est des trucs incroyables. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses encore. Il y a des têtes de nègres qui se vendent, il y a des mains coupées qui se vendent à Anvers. Enfin, il y a beaucoup de choses. Des gens militent pour ça, mais il y a énormément de choses. Mais comme c'est tellement dans la culture que les gens oublient que c'est même du racisme, en fait. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que les gens sont tellement habitués à ça que pour eux, ils peuvent même se donner le droit de dire ce qui est raciste et ce qui ne l'est pas, alors qu'ils n'ont jamais vécu le racisme. C'est ça qui est fou. Moi, j'analyse, je regarde, je prends du recul là-dessus, mais c'est intéressant. Intéressant. Je rajouterai à ça, il faut réussir à être soi-même sans l'aide des autres, sans le regard des autres. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que il y a des barrières que tu arrives à dépasser. Parce que vulgairement parlant, tu t'en bats les couilles en fait de ce qu'on pense de toi. Et à ce moment-là, si un raciste vient de dire quelque chose ou autre, bah, tu vas défoncer les murs et tu vas tellement aller loin que le mec il sera obligé de fléchir le genou et d'ouvrir la bouche. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. si tu arrives à ce niveau-là, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Maintenant, c'est difficile.
Faire de l'argent intelligemment, c'est aussi une façon.
C'est quoi intelligemment ?
Intelligemment, c'est-à-dire en faire et être capable de le garder. C'est-à-dire que souvent, les gens qui sont issus de milieux compliqués, quand ils gagnent de l'argent, le système les incite, et on l'a vu avec plein de gens issus du rap, hein, à prendre des crédits, à dépenser là, à afficher ci, à afficher ça. T'es un des seuls qui parle dans ton album de placer de l'immobilier, de réfléchir.
Ouais, je pense.
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y a pas que le système, je pense qu'il y a les meufs aussi, t'as pas mal de trucs. Tu peux arriver à un stade où... et puis, c'est différent. Le rapport avec l'argent dans le milieu de la musique, c'est plus compliqué que ça. Imaginons que tu gagnes, on va dire, 1 million. Je vais faire un peu de maths, tu gagnes pas vraiment 1 million. Quoi qu'il arrive, tu gagnes minimum 700 000.
Et encore, tu comptes très très large.
Non, dans le sens, si on t'enlève 30%, je sais pas, vous, peut-être c'est 50, un truc. 50, et ben voilà, tu gagnes, imaginons, 500 000. Si tu dois encore payer d'autres gens, mais que toi, on t'a dit que t'avais 1 million. T'as pas fait forcément cette recherche sur combien l'État va te prendre et tout ce que tu veux, et que tu dépenses 600 000. Ben en fait, t'as un déficit de 100 000, mais tu le sais pas encore. Et c'est après que tu commences à entrer dans les zones de crédit et tout ce que tu veux, parce qu'en fait, t'es en manque d'informations. Parce que t'es devenu riche d'un coup et c'est des informations qui venaient pas, parce qu'à l'époque, bah, l'État te prenait directement ton argent sans le savoir. Mais là, au contraire, tu touches tes thunes et après, on vient de les prendre.
Mais c'est aussi là que ça fait système. Pourquoi je te parle de système ? C'est que souvent, les artistes sont dans un système où les gens pour qui ils signent connaissent très bien le système.
Ah ouais, bah oui, dans ce sens-là, bien sûr, mais ça, c'est clair. Ouais,
C'est très facile d'avoir un artiste qui est en galère et lui dire « bah, fallait me demander ».
C'est un game de fils de pute, hein. Désolé pour la vulgarité. Non, je suis pas désolé.
Non, sois pas désolé.
C'est un game d'enculé parce que. Ouais, c'est. Mais en même temps, c'est le game. C'est le jeu. Parce qu'à un moment donné, on te dit que tu dois aussi être responsable. Les gens sont pas tes parents, sont déjà pas tes amis. Donc, c'est du business. Vous êtes là pour faire de l'argent. C'est à ce moment-là, quand tu commences à comprendre toutes ces facettes du game, que là, tu peux vraiment commencer à t'épanouir financièrement. Tant que t'as pas compris ça, c'est difficile. Tu vas te faire enculer un peu par-ci, par-là, un jour là-bas, et ainsi de suite. Et puis, ça enfle, et après, t'es pas bien, tu dors plus la nuit. Pour être un bon artiste, je pense aujourd'hui, en tout cas, je pense même tout le temps, il faut être concentré et dans ta musique, et dans le business. Enfin, pour moi, c'est même pas du business, c'est de la sécurité, en fait. Le business, c'est encore autre chose. C'est de la sécurité. Si t'es pas focus sur tout ça, à un moment donné, tu vas pas bien dormir la nuit, ça c'est clair.
Il y a aussi le rapport avec l'absence. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si un artiste s'absente trop longtemps, ça va tellement vite que c'est très compliqué.
Ça dépend. Orelsan, il a traîné, mais ça a été. Je pense que ça dépend de l'artiste. Non, ça dépend de chaque artiste. Si t'es venu comme ça, d'une certaine façon, bah forcément, si tu t'absentes, bah ça craint, mais je crois que ça dépend de l'artiste. Hein.
Est-ce que toi, par exemple, tu peux t'arrêter de travailler ?
Bah, je vois pas la musique comme un travail. Donc déjà, ça va, tu vois. Plus si je suis fatigué ou si je suis sur un autre projet, bah je vais pas m'arrêter, je vais juste faire autre chose. Mais c'est pas un truc où je me dis bon, je
dois... Mais est-ce que tu te vois passer une semaine sans faire de musique ? Ou sans penser à de la musique ?
Non, ça fait partie de moi. C'est un... Je peux écrire des trucs, mais pas les sortir, c'est déjà arrivé. Ça arrive encore maintenant.
Il y a même des trucs que t'as écrit il y a longtemps qui sortent maintenant.
Qui sortent maintenant, des trucs peut-être qui sortiront jamais. J'ai un rapport avec la musique particulier. Moi, c'est en moi. Je fais de la musique depuis trop longtemps. Je compose en plus de ça. Donc c'est pas... Je peux vivre même un jour, en fait. Tout à l'heure, j'écoutais des prods encore, donc... C'est comme ça, tu vois. Moi, c'est différent, je pense. Je me mettrais pas dans la même catégorie que plein de gens. Je kiffe trop le son, en fait. Vraiment.
Il y a une influence dont j'ai hyper envie qu'on parle, parce que dans Festival de Rêve, c'est flagrant, c'est Mylène Farmer.
Ouais, Festival de Rêve, c'est particulier.
Et c'est marrant, parce que moi, j'avais, avant Batterie Faible, j'avais pas écouté ton projet précédent, qui s'appelait Salle d'Attente.
Ouais, ouais.
Et il y a déjà des refrains comme ça.
Ouais, il y a des délires de fou, hein.
Et en fait, on voit que cette façon de faire de la pop avec la langue française, c'est un truc qui t'a marqué. T'écoutais, Mylène ?
Ouais, j'écoutais surtout MCM Pop, parce qu'à l'époque, quand je me faisais chier, il n'y avait pas grand-chose, et on n'avait pas les bonnes chaînes pour les bons dessins animés. les mangas, tout ça, ça c'est venu juste après. Mais donc j'écoutais MCM Pop tout le temps, et les clips étaient un peu particuliers. Et puis comme je suis dans mon coin, j'écrivais seul, ça m'inspirait. Et t'avais des sons bizarres qui passaient que j'aimais pas.
Nous par exemple, sur notre chaîne de télé, on enchaîne Damso avec Mylène. On adore mélanger ces clips.
Ouais. Ouais, bah c'est... Bah, vous êtes aussi un peu bizarre, je pense.
Ah bah, ouais. Sinon on serait pas là.
Ouais, je pense. C'est un peu... Ouais, ça, c'est un délire.
Tu te sens bizarre?
Ouais, quand même un peu. Ça dépend des jours. Ça dépend de ce que je fais. Mais généralement, non, ça va. Je suis encore dans le moule pour l'instant, ça va.
Parce que la normalité, c'est un... Je sais pas si cette anecdote est vraie, mais il paraît que tes parents t'ont donné une espèce de deadline pour reprendre les études ou pas.
Ouais. C'est plutôt moi qui avais dit que si j'arrivais pas à ce moment-là, ben prenez-moi et faites un peu ce que vous voulez, parce que pour moi, ça voudrait dire que j'ai rien compris à la vie. Et que finalement, bah, ça va, j'avais compris.
Tu voulais pas être dans le rang normal, dans la normalité, dans la norme.
Je voulais juste pas me faire chier, en fait. Je voulais pas me retrouver quelque part où bah, j'allais pas kiffer ce que je faisais. J'allais pas me retrouver là... Je kiffais trop la musique. Donc c'était soit de faire un truc que j'aimais trop, ou d'office faire un truc que j'aimais pas trop. Mais que j'allais peut-être découvrir avec les années, 50 ans, je sais pas combien de temps, ce qu'il fait, ça me parlait pas. Être avocat ou quoi, il y en a qui kiffent ça, c'est bien. Moi, ça me fait chier. C'est, je veux dire, j'aurais toujours gratté un petit texte vite fait à mes heures perdues. Autant faire ça à fond, à 200%, quitte à être dehors, dans la rue. Moi, ça me parlait, tu vois. Et ça s'est bien passé, tant mieux. Mais c'est pas forcément dans la normalité. C'est plus faire un truc qui me fait pas chier, parce que sinon je meurs après aussi, tu vois. Je pense qu'on oublie souvent ça. Tu meurs, tu n'es pas là. Il n'y a pas un truc où à un moment donné, il y a une autre vie un peu que tu vas faire. Non, non. Mec, après, tu meurs, c'est fini, tu vois. Et ça, c'est plutôt ça, ouais.
Elle vient d'où cette conscience-là, de l'urgence de vivre?
Bah, des gens que j'ai vu mourir, je crois, tout simplement. Ouais. Ça vient peut-être de là. J'ai vu pas mal de gens aussi dans... J'ai vu des cadavres aussi, j'ai vu des gens morts. J'ai vu des tirs, j'ai vu des gens fuir, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens paniquer. Ma propre parent, nous-mêmes, moi-même, on a vécu des choses, tu vois. Quand t'as des rebelles qui passent, on te dit « Abaisse-toi parce que si tu te lèves, c'est chaud. » Forcément, quand t'es petit, parce que j'étais le plus petit, enfin, je suis toujours le plus petit d'ailleurs, bah, tu vois plus les choses de la même façon. Je pense que quand t'es ado, t'as été habitué d'une certaine façon, je sais pas, mais que tu vois pas les choses de la même façon. Moi, ce que je voyais, c'était plutôt « Ah bah, tu peux quand même partir n'importe quand, tu vois. » Et puis j'ai vu d'autres trucs aussi violents. Donc ça m'a un peu conscientisé, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, je sais que je peux crever demain, quoi. C'est pas... Pourtant, tout le monde sait que tu vas mourir. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Mais on fait comme si, en fait, ouais, c'est cool, c'est plus tard. Mais en fait, le plus tard n'existe pas, c'est ce que tu connais pas. Donc ça vient de là, je crois, ouais.
Tu crois en Dieu ou pas?
Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Même s'il y a des gens qui me traitent d'illuminati, tout ça. Mais ouais, bien sûr.
Pourquoi?
Je sais pas, peut-être le vide, ça, je sais pas, ils partent dans des histoires. Mais ouais, bien sûr, ouais, je crois en Dieu énormément, ouais. Beaucoup.
Qu'est-ce que ça t'apporte?
De la paix, de la sérénité même, je dirais. Quand je suis en colère, quand j'ai envie vraiment d'éclater des gueules, je me dis à un mec, il me comprend. Il me dit c'est pas bien, mais il comprend quand même pourquoi j'ai envie d'éclater la gueule à l'autre mec. Alors rien que ça, ça me rassure déjà. Et puis c'est plus dans l'hygiène, dans
l'hygiène de
vie, en fait, dans l'hygiène de l'âme, de l'esprit, ça aide. Quand t'as des colères, des rancunes, et qu'on te dit juste aime ton prochain comme toi-même, c'est une phrase incroyable. Parce que tu dois d'abord t'aimer. Et ça, du coup, quand tu fais d'abord le pas pour t'aimer, tu découvres encore d'autres choses et d'autres trucs. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à vraiment rentrer dans la croyance, en fait.
Quand on écoute un morceau comme William, on voit que tu luttes pour réussir à t'aimer.
Ah, c'est des galères, bien sûr. Je suis pas un mec super sympa, parfois. Puis je peux être un enculé quand je veux, donc c'est aussi... C'est difficile. Parce qu'il y a des gens qui t'apportent du bien, mais que... C'est difficile de donner, de rendre le bien quand on... Quand on t'aime vraiment, parfois tu refuses, en fait. Tu veux pas voir ça, tu dis, écoute, je préfère un truc un peu dégueulasse, une salope qui veut pas plus que ça. Je suis bien dedans. Mais quand quelqu'un t'aime vraiment, c'est difficile. C'est difficile
d'accepter. C'est très dur d'encaisser l'amour.
Ouais, énormément. Ça fait peur. C'est flippant.
Quand une fille te dit « je t'aime », ça peut t'agresser ?
J'ai pas envie de l'entendre, moi, j'ai pas envie. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'attends quelque chose de moi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Ça veut dire que t'attends...
T'es pas le seul, mec.
Ouais, un truc en retour. Ou ça veut dire juste que... Ça veut dire quoi exactement ? Mais tu peux pas expliquer pourquoi t'aimes quelqu'un, tu vois. Donc du coup, c'est toujours le même débat, en fait, en général. Et c'est là où je crains. Moi, je suis très mauvais, ça. Quand on me dit « je t'aime », je dis « ok ».
Tu dis « merci ».
Ouais, c'est déjà ça.
T'arrives à répondre « je t'aime » aussi ?
Ouais, bien sûr. Mais c'est très, très, très rare. Mais bien sûr.
Et avec ton fils ? Ça
ouais,
part tout seul.
Ouais, mais ça, c'est mon fils, je veux dire, ça, c'est... Bah, il parle pas encore, il comprend pas encore, donc je lui dis pas encore. Mais peut-être plus tard, mais c'est différent, c'est mon fils.
Et s'il te répond pas ?
Bah, je vais rigoler. Ouais, parce que je vais dire au moins, il tient ça de son père. Mais non, c'est différent. Lui, c'est ma chair, c'est pas la même chose. C'est mon fils, quoi.
T'avais écrit un mot super émouvant. Une lettre à ton fils.
Ah ouais ?
Tu t'en souviens ou pas ?
Ouais, mais ça, c'est parce que j'écrivais un mini-bouquin sur la vie, en fait. Je l'appelais ça l'antidote. C'était pour pouvoir vivre, en fait. Parce que j'estime que la vie est vraiment un combat. Et puis j'ai mis un petit bout de ça sur Instagram. Je kiffais bien en fait, j'aimais bien.
Tu pourrais nous le relire ?
Ouais, mais il est long. Hein.
Non, moi j'ai un petit bout.
Ouais,
okay. J'ai un petit bout, je trouve ça sublime et je trouve que tout le monde devrait le dire à son enfant.
T'as oublié que j'avais posté ça il y a longtemps. Alors, tu sais Lior, la vie n'est que ce qu'elle est. Si tu donnes tout pour y arriver, attends-toi à tout perdre quand il sera. La vie, c'est transformer quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'elle devienne ordinaire à nouveau. Ne crois pas en tes rêves, réalise-les. Fais ce qu'il te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres, et pas le contraire, ça j'aime bien ça. Remercie Dieu pour chaque ennemi qu'il mettra sur ton chemin, car c'est l'acharnement de tes adversaires qui définit la grandeur de tes bénédictions. Fais attention aux femmes qui feront attention à toi, dans le but de combler leur manque d'attention. Ça, c'est Lior où retiens ça. Ne passe pas trop de temps à essayer d'être ce que tu n'es pas, car tu finiras par croire que tu l'es vraiment. Sois toujours honnête envers toi-même, parce que les frustrations inavouées sont les plus dangereuses. Sache que vouloir oublier, c'est y penser tout le temps. Accepte la fin de quelque chose pour en construire une autre. Quand tu seras grand, tu penseras que c'était mieux quand tu étais petit, mais le temps a pour habitude de filtrer les aspects négatifs des souvenirs pour n'en laisser que le positif, ne sois pas dupe. Dernière chose, accepte-toi comme tu es. La propreté du corps devient primordiale quand la propreté de l'âme ne l'est plus. Ça, j'aimais bien la fin aussi. T'as un message.
Je trouve que c'est le texte où tu parles le plus de toi.
De moi, tu trouves ?
Plus concis.
Ouais. En fait, c'est effrayant quand tu vois parfois... Je crois que j'étais... Ce soir-là, je regardais un peu Bruxelles. Et tu vois que la vie va vite, en fait. Là, maintenant, j'ai 26 ans. Comment je vais penser après ? Je me sentais tellement bien, serein, chill. Je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais écrire. Et puis là, j'étais inspiré. Je dis, oh putain, c'est lourd. J'ai posté ça sur les réseaux. Il y a un petit temps déjà, non ? Il y a quelques mois, je crois.
Ouais. Mais ça va avec ta définition de « je t'aime ».
Ouais, voilà. C'est plus ma manière de dire « c'est long et compliqué ». Ouais, plus comme ça.
T'es devenu très, très fort dans la capacité à aller dans les choses les plus sombres et à les dire de manière très, très cash. Mais comme un exutoire. Et quand t'es papa, c'est comme si tu le préparais déjà au pire. Et en fait, tout le monde pourrait penser il est pessimiste, alors que non, c'est un message assez optimiste.
C'est la vérité. Quand je parle des femmes dedans, par exemple, c'est parce que c'est des trucs que j'ai vécu, mais que j'avais pas vu venir. Et y a pas mal de choses que j'ai vécues. C'est même pas que je suis pessimiste, je suis vraiment réaliste. Moi, les choses que je dis, c'est vraiment la vérité. Le pessimiste, c'est le mec qui voit vraiment tout mal. Alors que non, moi, c'est la vérité, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plutôt.
Parce que voilà. Tu dis souvent, mon âme est vide, ce que je ne crois pas un instant. Et c'est pour ça que j'aimerais reparler du romantisme.
Bah,
parce que j'ai l'impression que t'es plus amoureux de l'amour que des femmes.
Ça, c'est comme Jacques Brel, ça. Non, je dirais pas ça. Mon âme est vide au moment où je l'écris, parfois. Quand j'écris...
T'es en pilote automatique.
Ouais, voilà. C'est que à ce moment-là où j'ai écrit ça, ça l'était. Après, on peut la remplir, comme avec mon fils, quand on joue un peu. Voilà, ça me remet un peu. Je me dis, ah, bon, y a au moins quelqu'un sur Terre qui, voilà, j'aime bien. Mais...
Elle est folle, cette phrase. Il y a au moins quelqu'un sur Terre que, voilà, j'aime bien.
Ouais, ben, c'est la vérité. C'est la vérité, parce que je sais qu'il est encore innocent. Concernant les femmes, si je suis plus amoureux de l'amour que des femmes, non. Il y a des meufs que j'aime, il y a des femmes que j'aime vraiment beaucoup, que j'aime tout court. Mais non, ça dépend. Chaque histoire a son histoire, j'ai envie de dire.
Dans Peur d'être père, il y a plusieurs signes. Il y a peur d'être adulte. C'est quand même le truc, si tu as grandi avec un certain modèle paternel, pour toi, être adulte, ça peut aller à l'encontre de tes passions.
Ouais.
Et il y a aussi peur d'être avec une seule femme.
Totalement, de fou. C'est la plus grande peur. Parce que tu as peur de décevoir, tu as peur de faire le con, tu as peur de tellement de trucs. Et puis finalement, tu finis par avoir peur de toi-même parce que je suis né dans la séduction. C'est comme ça. Dès que t'es petit,
moi non, moi je suis... C'est pas comme ça.
Bah c'est bien finalement, alors peut-être que tu peux te concentrer sur quelqu'un. Mais moi c'est...
Non mais c'est de dire que toi t'as des armes pour séduire. Toi t'arrives, salut, ta voix.
Ouais mais non, c'est aussi le... C'est la célébrité qui fait beaucoup aussi, mais... Je veux dire, c'est surtout le...
Les meufs te calculaient pas avant?
Non, si, malheureusement pour moi c'est... En même temps, j'aime. Non, pourquoi je dis pourquoi ouais, je dis
toi, t'as fait, frère. Toi, t'as juste eu à venir comme ça.
Non, parce que le truc, ce qui craint après, c'est que du coup, tu. À un moment donné, tu dois faire un choix et ce truc, tu fais que le retarder le plus possible. C'est juste ça qui est chaud. Tu dois faire un choix parce que tu côtoies beaucoup de meufs et qu'à la fin, ça finit souvent dans des histoires compliquées. Ça finit dans les histoires de... Même si t'es cash et tu dis les choses telles qu'elles sont, mais que. Elle t'aime et que tu dois faire plein de trucs et qu'on t'a bien éduqué aussi, c'est surtout ça. Si j'avais été éduqué comme un enculé, ça aurait été beaucoup plus simple, mais moi j'ai pas été éduqué comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est ce côté-là où tu dois gérer les émotions des autres et que parfois tu fais pas toujours le bon choix, voire tout le temps. C'est ça qui est difficile, mais... Et c'est ces histoires-là que je raconte et on dit que je suis misogyne, mais c'est des histoires comme ça, c'est des trucs qui sont vraiment passés.
Ça se passe à deux en plus.
Ça dépend des gens, ouais. Ça peut se passer à deux, à trois. Mais ça se passe, quoi.
Enculé, c'est un mot que tu prononces...
Énormément.
Énormément, mais le moment où il est le plus puissant, c'est avant le refrain de Paradis. Tu parlais tout à l'heure de religion. J'imagine que tu crois au paradis au singulier.
Bien sûr.
Là, tu dis, si t'es un enculé, t'iras au paradis au pluriel.
Ouais. Ben, je kiffe... Au paradis, j'aime trop, parce que j'aime vraiment trop ce morceau. Quand je l'ai écrit... C'est y a deux lectures aussi, si je me souviens bien. C'est, la première, c'est le paradis et c'est l'enfer, en fait. J'explique un peu que je suis un enculé, finalement, et que si j'aime les meufs et tout ce que tu veux, bah, forcément, c'est le paradis qui m'attend, c'est l'enfer, ce truc où les âmes perdues, en fait. La drogue et tout ça. Et l'autre, c'est plutôt les derniers seront les premiers, et que je suis un enculé, mais j'essaye quand même de changer et que si les derniers seront les premiers, bah, c'est que j'irai alors au paradis parce que je suis vraiment le dernier des enculés. Et j'aimais bien cette lecture dans ce sens. C'est pour ça que j'ai mis au paradis au pluriel en fait. Parce qu'il y a le paradis qui est l'enfer et le paradis qui est ce côté pur qu'on...
Il y a aussi les paradis matériels.
Ouais, pour moi c'est l'enfer.
Ceux qui sont capables de se dire je suis le roi du monde.
C'est l'enfer pour moi. C'est... L'enfer, c'est pas forcément juste les flammes. L'enfer, c'est l'endroit où tu pourras juste pas te repentir. C'est le sexe, c'est l'alcool, c'est l'argent, c'est pas mal de trucs qui, dans le monde réel, sont bien. Mais à un moment donné, si on dit que la vie est infinie, bah, t'es baisé. Parce que tu seras jamais serein dans ça, tu vois. Et donc, du coup, tu vas brûler dans ton âme parce que tu vas jamais trouver la paix, en fait.
Plein de gens spéculent sur la fin de ta carrière. Alors, tu l'as dit clairement. La carrière,
ouais.
Pensez au mot infinité.
En fait, il faut dissocier carrière et musique. C'est vrai que je ne me suis pas bien exprimé. Enfin, je pense que si. La musique, j'en ferais. Je serais dans le game à jamais comme Aznavour. J'avais dit, bon, pas son âme.
Son âme.
Dans le sens, je vais écrire vraiment jusqu'à... Voilà. Mais dans le game, vraiment, sortir des projets et tout ça, pas forcément. Pas forcément, j'avais dit dernier album ou peut-être pas. C'est pas une blague, c'est juste que ça me fait chier. Là, je le sens, je suis bien. Quand je suis avec mon fils, je fais des improvisations sur une prod à l'ancienne. et je kiffe en fait, c'est kiffant. Et je mets une prod, il danse, bon, il est pas vraiment sur les temps, mais je rappe, moi-même je me redécouvre parce qu'avant je faisais des impros tout le temps. Et je rappe sur n'importe quelle prod, je change de prod, je kiffe parce que j'ai plus. Si je veux, je peux arrêter, je peux faire ce que je veux, j'ai plus cette épée de Damoclès comme ça qui est au-dessus de moi, je fais ce que je veux. Et c'est ce kiff-là que moi j'aime bien. Et que si j'ai plus envie de faire d'album, j'en fais plus. Tu vois, j'ai plus cette pression de. J'ai plus d'album à livrer, donc du coup, je me retrouve à écrire. C'est kiffant, en fait, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je fais des prods, par exemple. Avant, j'en faisais plus depuis un petit temps. C'est des trucs que j'avais perdus.
Mais t'avais une échelle de temps pour livrer cet album ?
Non, je me mets moi-même la pression. C'est pour ça aussi, tu vois. Je me mets la pression, je me dis non, il faut que je tue le beat, il faut que je tue le beat.
Là, donc on en revient avec la notion d'absence dont on parlait tout à l'heure. Quand t'es dans ce truc-là du game, tu as l'impression que si tu disparais, tout le monde t'oublie.
C'est plus de l'excitation, c'est plus de l'adrénaline en fait. C'est plus dans... Faut que je tue. En fait, c'est juste ça. C'est même plus par rapport aux gens, c'est par rapport à moi-même, cette pression que je me mets. Écoute, tu dois être un bosseur. Et t'es tellement dans ce truc-là que tu peux vite te perdre. Imaginons si j'avais encore 3 albums à livrer ou un truc. Tu peux vite te perdre. T'es dans ce truc où je dois. C'est personnel, c'est même pas en mode de si je pars et qu'on. Parce que sinon, là, je pourrais penser la même chose. Mais c'est plus. Faut que je tue le truc, faut que je suis dedans, enfin, je suis dans le game. Là, maintenant, je suis relax.
Une des raisons qui fait que tu peux rester dans le game à jamais et être relax, c'est Kenji Girac. Il a un petit mot pour toi.
Ah, big up.
Salut Dems, je voulais te poser une question. Est-ce qu'à l'avenir, tu crois qu'on pourra encore travailler ensemble ?
Bah, bien sûr. Avec un grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est un mec que j'aime beaucoup d'ailleurs. Toute son équipe même, c'est des... Ils sont très fous. Je vais pas raconter de trucs parce que je sais qu'il a des fans moins âgés que moi. Mais franchement, ouais, bien sûr. Et c'est kiffant parce que tu redécouvres une autre plume. Moi, c'est des trucs que je connaissais pas en moi. Cette capacité d'écrire pour
les gens. Mais alors, tu le faisais pour toi. C'est ouais, pour ça que tout à l'heure, je te parlais de Mylène Farmer. C'est que cette façon de faire de la chanson à la française, de la pop,
ouais.
Tu le faisais pour toi.
Ouais, bien sûr. Mais je kiffe, tu vois. Et du coup,
c'est pas choquant d'entendre un morceau de Kenji Girac écrit par Vianney et un morceau de Kenji Girac écrit par Damso. Les deux cohabitent dans le même album et ils sont pas antinomiques, c'est homogène.
Ouais, c'est de la musique. C'est de la musique, c'est les chroniqueurs et les journalistes qui veulent mettre des noms et des connotations sur les artistes. Sinon, c'est de la musique pour moi. Kenji Girac, demain, il peut te faire un flow de fou, mais comme on a mis une étiquette sur lui, ça va pas passer. Mais ça, c'est le travail des chroniqueurs et des journalistes, ça. C'est comme ça, c'est le game.
C'est le public aussi.
Mais le public, il est influencé par tout le reste.
T'y crois vraiment, toi ?
Ouais, normalement, bien sûr.
Moi, je pense que tu te trompes, parce que quand on voit la couverture, justement, où tout le monde a dit misogyne...
C'est vrai, t'as raison.
Le public t'a suivi.
C'est vrai. Je retire ce que j'ai dit, je m'excuse auprès de mon public. Non, c'est vrai.
Il est relou.
Non, mais c'est vrai.
Frère,
c'est
j'ai l'impression de jouer à Tetris. tu crois que t'as inventé ça ?
Non, j'aime beaucoup Tetris. Mais non, je préfère le Rubik's Cube. Bah, sur ce coup-là, en même temps, je pense que c'était tellement fou aussi, le truc de misogynie et tout ça, que le public a dit non, quoi. Ils ont dit non, ça, on n'accepte pas. Alors, ils ont voulu balader, je crois. Ouais. Ça me paraît plus logique. Mais je sais que les médias peuvent avoir une influence, c'est clair. Maintenant, si tu t'en fous des médias dès le début, alors ils n'ont pas vraiment d'influence sur toi aussi, c'est ça.
Tu l'as déjà utilisé avec une meuf, celle-là ?
Le « c'est pas toi, c'est moi »
Ouais.
Non, 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 j'ai jamais fait ça.
Jamais ?
Non, non, c'est pas mon truc. Si
je te largue... Je te mérite pas, je suis claqué, t'es vraiment beaucoup trop chambé.
Non.
Vraiment, trouve-toi un autre cum.
Attends. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Non, non, de vrai, c'est... Je suis déjà parti sur un truc comme ça. Mais non, non, le c'est pas moi, non, c'est pas mon truc. Si ça va pas, c'est que voilà, c'est aussi toi. Je vais pas me rejeter la faute si, voilà, si tu m'as fait chier et qu'on en est arrivé là. C'est toi aussi, non, non. C'est pas mon truc, ça. Non, non, c'est un truc de menteur, ça. C'est pas toi, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tu préfères être un salaud ou un menteur ?
Un salaud. Voir aucun des deux, en fait. Je préfère juste qu'on dise que j'ai été honnête, mais que mon honnêteté ne convient pas. Mais c'est tout.
Elle est bonne, celle-là. Oh, il est fort.
Bah, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est souvent ça. Parce que là, je vais dire un truc, et après, on t'en veut, parce que bah, t'as des pulsions. Bah ouais, tu le dis, tu vois. Et après, on dit que t'es un connard. Bah non, de vrai, j'avais envie de baiser notre meuf, j'en suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Quand tu dis ça, t'es fou, quoi, tu vois. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que tu veux faire ?
Tu l'as déjà dit aussi, cash ?
Ouais.
Putain.
Et ça s'est très bien passé après. Ouais. Mais je pense que quand tu dis les choses clairement, déjà t'instaures une confiance. Et puis tu mens pas, ça qui est bien. Quand tu dis les choses clairement, vraiment, écoute, voilà, c'est compliqué. Je suis un mec, moi. Enfin, même pas un mec, parce que du coup, on va citer des mecs qui, eux, ne font pas ça. Mais que... Non, parce que je connais pas ta vie sexuelle, j'ai pas envie
j'en
de mentir. On va pas rentrer dans les détails. Apparemment, il y en a pas. Donc je vais zapper. Mais... ça m'a déconcentré. Mais ouais, non, c'est... Quand tu mens pas, je pense que ça va. Ça va, je pense que la meuf, elle comprend aussi. Au moins, du moins, c'est cash. Soit on reste pas ensemble, soit on reste ensemble et on combat ça. Y a pas un truc où je te pardonne, mais du coup, tu m'en dois une. Non, c'est pas comme ça pour moi.
Donc ça fait partie de ton romantisme.
Ouais, si on appelle ça du romantisme, ouais, on va dire
c'est
ça.
C'est du romantisme.
Ouais, alors ouais.
Partir du moment où tu définis la façon dont tu aimes et tu te construis ton romantisme.
Alors oui, ok. Bah, je suis romantique alors. Bah, j'ai toujours été romantique si c'est ça. Mais pour moi, c'est clair.
Ça mais c'est ce que quand on voit la place que prennent les femmes dans ta vie, que prend l'amour dans ta vie.
Bah, c'est pas que dans ma vie, je veux dire aussi. Les gens, il faut qu'ils soient honnêtes. Partir du
tu vois, tu repars dans c'est pas que moi, c'est les autres.
Bah, c'est vrai. Quand une meuf passe avec un gros cul et que t'es hétéro, tu la regardes. Ça veut dire que les meufs ont une place dans ta vie. Les hommes, en général, les meufs ont une place dans leur vie. Faut pas se mentir. Sinon, y aurait pas autant de sites de cul. Enfin, je veux dire, c'est... Les meufs ont une place dans la vie des hommes. Sinon, y aurait pas autant de divorces. Les meufs ont une place dans la vie des hommes. Donc c'est pour ça que moi, c'est pas plus que d'autres. C'est juste que j'en parle plus ou peut-être parce que je dis les choses directement. Mais faut pas se mentir, faut arrêter d'être hypocrite. Les meufs sont partout, dans les discussions. Ben, je le vois, faut arrêter, tu vois. Et vice-versa pour les femmes aussi. L'homme a une place énorme dans la vie d'une femme, sauf que la femme est plus subtile dans la manière dont elle va le montrer, et que l'homme est plus bourrin. Mais c'est faux, c'est tout, quoi. Ça, je pense que c'est pas que mon avis, je pense que c'est plutôt la vérité. Parce qu'il y a des faits.
Parce que j'ai vu plein de meufs défiler dans tes yeux.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est... ouais, c'est la réalité. Et maintenant, je grandis. Hein. Il y a des choses que je vois différemment parce que les relations évoluent aussi. Et puis, je tends un peu vers la sérénité, j'essaye du moins, et que tu peux pas être serein dans cette vie-là, je pense. J'ai pas trouvé la recette, en tout cas.
Tu parles aussi beaucoup des rêves qu'on a et qui se brise au fur et à mesure du temps et quand on grandit. Et un des rêves qui est le plus douloureux pour toi à vivre, c'est de se dire « la personne qui sera la mère de mon enfant ne sera pas forcément la femme de ma vie ».
Ouais, ça c'est des questions de tous les jours. C'est encore plus profond parce que c'est surtout que malheureusement, ça, je suis la raison principale de ça en fait, c'est surtout ça.
Toi, t'as grandi avec des parents ensemble.
Ouais, bien sûr. Ça demande beaucoup de maturité de pouvoir rester avec quelqu'un. Vraiment, si on oublie un peu ce côté hypocrite, on dit mais non, bien sûr, c'est simple. Non, 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 c'est très compliqué. Parce que quand tu trompes vraiment, c'est compliqué aussi. Et que pour toi, tu trompes pas vraiment. Si tu baises une meuf, et je vais être très cash, je pense qu'il y aura sûrement des débats avec ce que je dis, alors que pour moi, c'est juste vrai. Si tu baises avec une meuf ou quoi, et que... Pour toi, tu l'aimais pas. T'as pas vraiment trompé, tu t'es juste vidé les couilles. Si je dis ça comme ça, c'est violent, mais c'est la vérité. Parce que quand tu vas rentrer, bah pour toi, c'est normal. Enfin, je veux dire, t'aimes toujours ta meuf, y a pas de souci. Mais que dans la vraie vie, dans le cœur de l'autre personne, bah non, t'as donné ton corps à quelqu'un et que du coup, c'est ça qui fait qu'on est en colère. Parce que quand tu te donnes à quelqu'un, bah c'est comme si... l'autre personne t'appartient aussi. Donc du coup, c'est comme si c'est une part de toi qui a été faire des bêtises, entre guillemets. C'est ça qui fait que tu pleures, tu chiales parce que t'as l'impression que l'autre t'a trahi, parce qu'il a trahi une partie de toi-même. Pour toi, ben non, t'as trahi personne parce que c'est bon, ben je l'aimais pas, j'ai juste baisé, ouais, mais non. Hein. Mais au fond de toi-même, c'est pas grave parce que tu l'aimes pas cette meuf-là, par exemple. C'était juste que du cul. Mais que, en grandissant, tu dois comprendre ces choses-là et faire en sorte que, ben non, tu dois plus voir ces personnes-là parce que ça fait mal à l'autre, à autrui, et que tu dois commencer à être sérieux et tout ça. Et que quand t'es pas prêt, zap, t'es juste pas prêt. Mais que peut-être que quand tu seras prêt, ben, il sera trop tard, tu vois. Parce que la personne aussi, elle vit, elle fait sa vie, donc c'est un peu dans ça que je vis. Et c'est ni triste, ni pas triste, c'est juste, c'est le game, quoi.
Est-ce que toi, tu pourrais pardonner ce que t'aimerais qu'on te pardonne?
Non, je pense que j'ai beaucoup d'ego. Je peux pardonner facilement, mais pas forcément ce que j'aimerais qu'on me pardonne. Moi, je peux faire des trucs, je m'en fous, mais quand tu vas faire un truc, pour toi, ça va être tellement grave, moi, je vais te dire, allez, c'est pas grave. C'est différent. À ce niveau-là, c'est pas... Je suis pas en mode, si j'ai fait ça, l'autre doit pas faire ça, non, c'est différent. Je comprends bien les gens, à ce niveau-là. Si tu trompes, tu fais la conne, c'est pas grave. Ça dépend surtout de comment t'as fait la conne et comment tu vas recommencer après. C'est pas un souci, ça, je veux dire. Je suis pas rancunier à ce niveau-là, non.
Parce que là, tu vas partir en tournée. Comment tu vas faire pour te contrôler?
Bah pour moi, si tu dois arriver à un stade, tu dois plus forcément te contrôler, tu dois juste comprendre. C'est ça la difficulté, c'est plus le contrôle. Quand tu te contrôles, zap, t'es pas prêt, tu vois, ça sert à rien. Quand t'es dans une phase bizarre et que t'as besoin de checker des meufs tout le temps, c'est ta phase qui est bizarre, c'est pas que t'as envie de checker des meufs tout le temps, c'est juste que c'est ta phase qui est bizarre. Et du coup, quand tu vis d'autres trucs, tu grandis, imaginons t'as pris des crédits, des trucs comme ça, que t'as envie de plutôt te concentrer sur une vie un peu plus stable, c'est cette phase-là. C'est jamais vraiment t'habiter tes couilles, c'est plutôt les phases en fait. Et comment on te met par rapport à ton image, comment on te regarde, ça joue aussi beaucoup, comment tu te regardes aussi. C'est ça qui te met dans ce truc-là.
Mais avant, les artistes étaient les seuls à avoir des images. Maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde a une image. Tout le monde développe une vie rêvée, tout le monde essaie de se vendre. Et c'est très facile de consommer l'autre aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. On est centré sur soi maintenant. C'est ça qui est encore plus bizarre maintenant d'ailleurs. Parce que la plupart des gens regardent l'autre dans un miroir qui reflète d'abord son image avant celle de l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on est souvent fort égocentrique. C'est pour ça qu'on va dire « Ah mais l'autre il a pas fait ça ». Mais c'est parce que tu te regardes d'abord avant de regarder l'autre. Et les réseaux ont amplifié ça. Avec les filtres et les ceci et les cela. C'est vraiment pour que ton image soit au centre de ta vie. Ouais, c'est... Les artistes n'étaient pas comme ça, ils étaient idolâtrés par rapport à ce qu'ils faisaient. Mais là, tu fais rien et que tu t'idolâtres déjà tout seul. T'es foutu déjà, tu vois.
T'as déjà idolâtré un artiste? Michael Jackson ne compte pas.
Bah, idolâtré, kiffé à fond, ouais. Idolâtré, je sais pas. 50, peut-être quand j'étais plus petit, moi, c'était. En fait, j'étais surtout. J'analysais souvent comment il faisait succès. C'est ça qui m'intéressait, en fait.
C'est ce qu'il racontait, c'était son storytelling.
Ah, je parlais pas anglais, mais je regardais surtout comment les autres percevaient le mec. C'est ça qui était kiffant, de voir comment un être humain peut être vu comme un dieu ou autre. C'est plutôt ça. Alors je posais souvent les questions aux gens, en fait, comment tu trouves ce gars? Et alors j'écoutais les réponses et je notais dans un cahier que j'avais à l'époque. Je me souviens, ça fait longtemps, ça.
T'as dit un truc qui a résonné assez fort chez moi, c'est que t'as appris à faire le silence dans ta tête quand on te parlait. Parce que souvent, c'est le truc des grands anxieux. C'est quand t'es anxieux, tu parles tout le temps dans ta tête. Et souvent, quand les gens te parlent, t'es déjà sur l'idée d'après.
Ouais, ça me permet de gagner du temps. Je sais pas pourquoi j'aime bien gagner du temps, alors que ça sert à rien. Mais... Et puis parfois, ça me permet de pas avoir trop d'informations inutiles dans ma tête. Souvent, quand on me parle, on me dit plein de choses. Et moi, je les retiens, ces choses-là. Et ça devient vraiment lourd. Et que les gens parlent souvent juste pour parler, ils disent des bêtises. Et que quand je me mets seul dans mon coin, ou même dans une discussion, mais que je suis déjà ailleurs, ça me permet de pouvoir garder quand même une vraie discussion avec quelqu'un. Ouais. Je fais pas là maintenant, mais...
Parce que tu gamberges très très vite.
Très 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 vite.
Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que cette trilogie, elle aurait pu s'appeler « Tout se passe comme prévu, sauf ce qui était imprévisible ».
Oh, c'est ça, c'est stylé ça. Tout se passe comme prévu, sauf ce qui est... Bah ouais, c'est un peu ça. Bah, tout se suit un peu. Tout se suit souvent. Ce qui est marrant, c'est que On est déjà venu me dire, même par des proches, ouais, mais j'aimais bien ce son un peu quand tu faisais. Hein, et que tu. Moi, c'était marrant parce que je me
disais, bah non,
voilà, voilà, c'est exactement ça, bah écoute-le en fait. Sinon, ça sert à rien que je fasse la même chose. Tu vois. Mais que j'ai l'impression que cette vision-là, elle est trop. Ça va pas, c'est en décalage avec ce qui se passe maintenant. Mais moi, quand je fais un nouveau truc, c'est parce que je vais explorer d'autres horizons et j'ai ma vision un peu. Je sais que il faut que j'explore un peu ça là-bas parce que je connais pas un peu ça et un peu ça. Et que si t'as kiffé ça, bah réécoute-le en fait, c'est bien, c'est cool. C'est parce que je travaille les sons pour que tu puisses les réécouter, tant mieux.
Parce que tous les projets forment un ensemble qui est assez cohérent.
Ouais. Si t'écoutes, tu vas voir que. Bah, tu te balades en fait. Si tu mets Batterie Faible, Ipséité, puis Lithopédion, et même Salle d'attente, en fait, tu te balades, et c'est ça que je kiffe. Ça sert à rien de revenir au point de départ. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, en tout cas. C'est bien pour d'autres artistes, moi, ça me parle pas, c'est pas comme ça que je vois le son. Mais que tu peux te balader, tu peux découvrir un... Pour moi, c'est comme une sorte d'un zoo, si tu mets le même animal tout le temps, parce qu'il est fort, ça craint. Il faut que tu mettes, je sais pas moi, un pélican là-bas, et c'est un peu ça, et c'est un voyage, c'est ça que je kiffe.
Qu'est-ce qui était imprévisible?
Mon fils, clairement, c'était pas dans les plans. C'était pas dans les plans du tout, même. C'est une bénédiction.
Qu'est-ce qui l'a amené dans le cap par rapport à ce que tu avais prévu?
Il a amené le calme, l'envie d'être calme aussi. Parce que dans le game, t'as pas envie d'être calme, tu t'en fous. Mais après, quand tu vois quelqu'un qui pompe ton énergie comme pas possible, ben, en même temps, ça t'apaise. T'es responsable, en fait.
Tu fais tes nuits?
Ouais, maintenant il dort, c'est cool. Ouais, pas de soucis. Il se lève. C'est juste dès qu'il se lève, il est très expressif. Ouais, plutôt ça. Mais ça me calme, ça me calme.
Donc il tient pas ça de toi?
Non, non, non. Sûrement un de ses oncles. Mais pas. Non, non, moi j'étais pas comme ça. J'étais très calme. Toujours avec mon ballon, j'étais toujours calme. C'est pas de moi. Non, non.
Mais t'es quand même très expressif. T'es souvent en mode poker face, mais en fait t'es hyper lisible.
Ah ouais, peut-être. Hein. C'est, finalement, c'est les gens qui me définissent. Moi, j'ai jamais rien dit.
Tu t'es moi, pas dit, je vais me mettre dans un perso mystère
Bah, le mystère, c'est les gens qui le définissent. Moi, je chie comme toi, je pisse comme toi. Enfin, je veux dire, je suis pas. Faut pas croire que. Voilà. C'est juste que je suis plus retiré, je suis un peu dans mon coin.
Parce que j'ai vu des mecs faire des théories pas possibles, alors que. S'il y a bien un truc qu'on doit te reconnaître, c'est d'être capable de faire de la poésie avec des choses cash.
Ouais.
Il n'y a jamais 36 ans, c'est cash.
Ouais, c'est surtout la manière dont je vais amener la promo et des trucs. Bien sûr que j'aime bien One Piece, donc forcément aussi je mets des messages cachés, parce que c'est ça qui permet au moins de... Sinon, si je me fais chier, comme je le dis souvent, s'il n'y a pas ça, bah, moi ça m'excite un peu, quoi. J'ai envie de... Quand il y a un mec qui découvre, je dis « Ah putain, ouais, pas mal. » Mais au début, je l'ai fait comme ça.
Ouais,
donc...
c'est des trucs d'otaku, quoi. C'est-à-dire que tu te dis... c'est comme nous quand on va découvrir un personnage en arrière-plan, quand on va voir que tel mec était dans tel épisode, il revient là, qu'on parle de lui là.
Voilà, c'est ça que j'aime bien.
Mais ça va pas non plus chercher...
Bah parfois je vais loin et parfois je suis surpris ou parfois on va plus loin que moi et parfois on va juste pas dans la bonne direction. Mais sinon c'est un kiff moi de toujours placer un truc et puis après tu te dis ah, putain mais en fait il avait parlé de ça là-bas mais que j'avais pas fait attention, ça c'est...
Je trouve que là où tu vas le plus loin dans les albums, plus que dans les doubles sens dans les textes, c'est dans la prod, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités de prod, il y a des jeux de composition, il y a des trucs qui se mélangent, qu'on entend plus dans la musique électronique que dans le rap, où je me dis, le mec, il a dû passer autant de temps à mixer l'album qu'à l'écrire.
Ouais, ça c'est clair, ça c'est le même temps. Le mix et l'écriture, c'est le même temps. Surtout pour Lithopédion, c'est le même temps, ça c'est clair que... Oh. Pouf, on sait, avant déjà d'enregistrer, j'avais déjà les types de mix que j'allais faire, donc ça m'a pris la tête. J'ai kiffé, quoi. Mais c'est...
Parce qu'on a l'impression que ton ingé son, c'est ton vrai binôme.
Ouais.
C'est pas un album solo.
Ah ouais, non, mais on communique. Je l'ai envoyé à 1 minute 12, précisément, là, il y a ça, que l'auditeur a peut-être jamais écouté, mais que moi, je l'entends, ça me dérange. Un son qui s'appelle Perplexe dans l'album, on l'a mixé... Il y avait tellement de manières de l'écouter. Je l'ai retravaillé, Tarla Night, pareil, c'était incroyable. Soit les basses allaient frapper fort directement, alors soit tu l'écoutes d'une manière comme un slow, soit tu l'écoutes... tu peux tout changer dans un mix. Tout, vraiment tout. Le Festival de Rêve, on l'entend. La chorale, j'aurais pu la mettre tout le temps, ou pas, c'est des parties pris. Mais ça, c'est un kiff personnel, quoi. C'est pas un truc...
Dans Paradis aussi.
Ouais, aussi. C'est, voilà, toi tu l'entends, mais d'autres gens vont dire « Ah non, j'ai pas capté, j'ai jamais entendu ça. » C'est leur problème, j'ai envie de dire, c'est plus le mien. Ouais.
Quand tu pars sur une tournée et qu'on est méticuleux comme toi sur le son, forcément la scène c'est un truc qu'on appréhende parce que la plupart des producteurs qui se retrouvent sur scène ressortent toujours de la scène dégoûtés. Même si le show il était chambé, ils sont dégoûtés.
Ouais, j'ai encore rendez-vous avec les scénographes c'est la semaine prochaine. C'est un peu différent parce que la scène, j'ai mal débuté dans la scène quand j'étais moins connu. J'avais des scènes nulles, c'était vraiment flingué. Et j'ai retenu ça. Et
tu parles des scènes où on ne te coupait pas le micro?
Non, si, je parle des scènes où on me coupait le micro. Donc du coup, j'ai gardé un peu une rage. Et là, j'essaye toujours de trouver des trucs là sur les tapis de gens. Là, je suis plus à l'aise aussi. Je pense que comme je suis beaucoup plus détendu ces temps-ci, j'ai l'esprit tranquille, donc j'ai des bonnes visions. On va bien bosser ça d'ailleurs. J'ai hâte.
Il y a des concerts qui t'ont mis des claques? Tu dis, ouais, là, ça me donne envie d'être à la place du mec sur scène et moi aussi d'imaginer un truc.
Non. Je suis jamais allé à un concert, moi, ça qui est marrant. Je suis jamais allé à un festival, je suis jamais allé à un concert. Les premiers concerts que je découvrais, c'était les miens, donc. Festival aussi, ça qui est marrant.
Tu prévois des morceaux où t'arranges la foule ou c'est des trucs qui t'angoissent?
Non, mais on travaille le set à fond. Hein. On sait que là, ça va être plus comme ça, et puis parfois, il y a le feeling aussi. Et je mets toujours le feeling dans tout, parce que sinon je me fais chier, je deviens comme un robot. Et ça, j'ai pas envie. Si par exemple je me sens trop chaud et que je dis non, là il faut un Oopsiebot parce que là il faut, je le sens, et Santos, mon DJ, il est toujours prêt parce qu'il sait que je peux déconner à n'importe quel moment. Et donc je dis bon, là, un Oopsiebot, on le met, et du coup, c'est chaud, tu dois le sentir. Si tu le fais toujours comme ça, droit, non, enfin c'est bien, mais moi ça perd un peu de magie quoi.
Tu te sens seul en tournée ou pas?
Non,
non,
pas du tout.
C'est une colo?
Ouais, c'est un peu une famille. On est là, on se comprend aussi, puis on passe du temps ensemble. Je me sens jamais seul à ce niveau-là. Puis, imaginons si je me sens seul, alors c'est que je kiffe, c'est que je suis parti vraiment dans mon coin, quoi, tu vois. Mais c'est pas un truc de déprime.
Seul, c'est pas négatif hein, pour moi. Hein. Mm. Surtout quand on t'écoute, c'est pas négatif du tout d'être seul.
Ouais, alors. Je peux me sentir. Non, je me sens pas seul, je suis bien en tournée. Ouais. Je suis bien entouré. Il y a toujours du monde autour de moi, donc c'est dur de sentir un peu seul. Parfois, ouais, quand il y a trop de monde, du coup, je me sens un peu seul. Parce qu'on parle que de toi alors que t'es là. C'est un peu. C'est une sensation très bizarre.
Et surtout, t'es quand même. T'es pas le plus chaleureux de la Terre.
Ouais. C'est gentil.
Quand il y a le public qui vient entrer en contact avec toi, comment tu le perçois? Quand t'as tout d'un coup 5000, 7000, 10000 personnes?
Je fais un vide déjà pour commencer. Et puis. C'est cool quoi.
Il y a déjà eu un fan qui t'a rendu ouf? Qui est venu te parler à ça de l'oreille et qui t'a parlé longtemps?
Ouais, bien sûr, j'ai eu pas mal de trucs comme ça. Mais.
Je sais à qui tu penses, raconte.
Ah non, même pas. je sais que c'est. J'en ai souvent. J'en ai souvent dans la rue, mais c'est juste que je sais que les mecs, ils sont. C'est normal aussi, si t'écoutes quelqu'un avant de dormir, il y a des gens qui m'envoient des messages, je les lis aussi parfois, que je l'ai aidé après la mort de sa mère, des trucs, j'ai reçu des trucs forts, et que t'imagines pas en fait, quand tu le vois, c'est normal qu'il craque, qu'il pète un câble et qu'il a envie de témoigner l'amour qu'il porte à ta musique. Maintenant que j'ai compris ça, ça va, au début ça me faisait quand même un peu bizarre de voir les gens s'exciter comme ça quand ils venaient me parler, mais maintenant que j'ai compris ça, ouais, ça va mieux. Ouais, je juge plus en fait. Avant, je jugeais un peu, maintenant, c'est cool. Au contraire, je m'intéresse. Je pose un peu la question, je tourne un peu le truc, je dis, et toi, comment ça va? Alors, le mec, il est un peu choqué. Je dis, ouais, parce que finalement, ils connaissent tout de moi, mais moi, je te connais pas, tu vois. Alors, ils me racontent des histoires, puis voilà.
Et les nudes?
J'en ai encore plus là maintenant. C'est bizarre. Pourtant, je mets des trucs avec mon fils, mais les meufs, elles comprennent pas. Et elles envoient, ah c'est trop cute, on t'envoie une chatte. Je capte pas le.
Quoi?
Ouais, je capte pas, c'est un délire. Je suppose que c'est une preuve d'attention. On va dire ça comme ça. Je m'en plains pas, hein. Mais c'est bizarre quand même. Tu joues avec ton fils, on t'envoie des nudes. Il est trop cute. Et on t'envoie des seins, tu dis bon. C'est 2018.
Comment tu réponds?
Je fais un vie. Alors du coup, ça renvoie à un truc encore. On m'a déjà envoyé une photo avec une chatte et un vie, parce que j'avais envoyé un vie, donc du coup c'était un concept. Ouais, j'ai kiffé l'audace. C'était audacieux.
Il y a eu des suites ?
Non, quand c'est comme ça, je zappe. C'est pas intéressant.
Tu peux pas parler à quelqu'un en disant tu m'as envoyé ça, comment ça va ?
C'est pas le but. Quand on t'envoie comme ça, c'est pas le but. C'est l'hôtel où t'es et blablabla. C'est pas le but. Et comme ça aussi, je suis trop parano et puis c'est pas mon kiff.
Mais, est-ce que tu penses qu'on peut te piéger, qu'on peut prendre des photos ?
Bah, je pense que t'es sale. C'est tout ça. Mais sale dans le mauvais sens. Tu vois, c'est pas glamour, quoi, tu vois. C'est limite, tu sais pas tenir en place. Pour me faire ça, tu sais pas tenir en place. Faut un peu quand même, tu vois, un petit game. Mmh. Donc, tu sais pas tenir en place.
T'es un romantique.
C'est pas ça, c'est surtout que c'est chiant. Donc, du coup, quand
mais t'as besoin de séduire.
Ah, parce que quand tu vas... Imaginons, je suis ta logique. Quand t'arrives, qu'est-ce qui se passe?
Ah non, c'est pas ma logique.
La personne peut tomber dans les pommes, tu vois. Ou pouf. De vomir en tissant la bite. Il enfin, y a des trucs que tu sais pas maîtriser. Parce que les gens sont trop excités. Il se passe des trucs bizarres. J'ai pas envie de ça. Et puis j'ai juste pas envie de ça, en fait.
Il y a des garçons qui t'envoient des nudes ?
Non, c'est jamais arrivé, ça. En même temps, je vois pas le concept, quoi.
Bah, tu peux plaire à des garçons aussi, non ?
C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas arrivé.
Comment tu réagirais ?
Je réagirais pas. Je fais juste descendre.
T'envoies pas un vie, quoi.
Pourquoi j'ai envoyé un vie à une bite, quoi, faut dire, c'est pas... C'est vrai. Ça a aucun sens. Passons.
Ah. Et vient d'où le vie ?
Le vie, ça vient de la mort. De la crainte aussi de mourir. Je pense que c'est le message le plus simple du monde. La vie, quoi. C'est le message le plus simple. C'est un truc... j'avais aussi un album que je travaillais à l'époque. Qui s'appelait Jeune de vie. Et ça, je travaille depuis longtemps. Enfin, je travaillais, non, c'est juste que je savais que. Voilà. Et puis, c'est parti de là un peu, jeune de vie, la vie. J'aimais bien ce concept-là de jeune de vie. Le jeune, en fait, de la vie. Puis, ça s'est raccourci en vie tout court, en fait. Puis, c'est resté.
T'as dit un truc comme ça qui est pas passé inaperçu au début de l'entretien. T'as dit, notamment quand tu parlais du mot pour ton fils. T'as dit, ça fait partie d'un livre que j'ai écrit dans mon téléphone.
Ouais. Ouais, c'est un bouquin que... Enfin, un bouquin, c'est un recueil d'idées, de pensées, on va dire ça comme ça. Quand il est né, ça m'a un peu chamboulé. C'était une période trop compliquée. C'était hyper compliqué, je crois. Enfin, même quand j'ai appris qu'il allait venir au monde, pas très faible, n'était pas encore sorti, et tout ça. Donc, j'étais dans plein de stress. Et du coup, quand il est né, n'était pas encore sorti non plus. Et que j'avais plein de craintes sur pas mal de choses. Et j'ai commencé à écrire si jamais j'étais pas au top. En fait, si demain, tu sais, t'étais pas à l'abri de savoir ce qui va se passer. Demain, je peux péter un câble à cause d'un truc de trop, je sais pas, tu vois. Ça va vite, la vie d'artiste. Et que tant que je suis encore lucide, que j'écrive tous les conseils du monde entier que j'ai recueillis là-bas, qui sont venus, des histoires personnelles, de tout ce que tu veux. J'écrive un maximum de trucs. Et j'envoyais souvent à sa mère, si jamais je pétais les câbles, t'envoies. Et du coup, j'ai commencé à voir que ça faisait en fait une sorte de recueil, c'était balèze. Et j'envoyais plein de trucs. Si jamais je crève, si jamais j'ai un problème, si jamais je pète un câble, qui garde ça de moi en fait. Et rien d'autre, c'est plus comme ça que j'ai. Je commence à écrire ça.
Tu penses le publier un jour ?
J'ai jamais pensé vraiment, non.
Tu ne devrais pas publier un livre ?
Non, je t'avoue que j'ai pas le talent pour écrire, je pense. Moi, c'est juste un kiff. J'ai pas ce truc-là littéraire de...
T'as envie d'écrire que de la musique ?
Bah, je me pose pas la question, je kiffe. C'est le feeling, tu vois. Je vais pas me dire demain, écoute, bon, maintenant, je vais me mettre dans un bouquin. Non, il faut que ça vienne. Et que je commence à écrire vraiment, et que je dis « Oh putain, c'est cool !» et que j'ai envie de publier. Faut pas qu'on me dise « Oh, mais tu devrais le faire !» et qu'en fait, je le fais avec hésitation. Ça veut dire que je l'aurais fait pour qui, en fait ? Pour moi ou pour les autres ? Et je pense que dans l'art, il faut être égoïste un maximum pour pouvoir vraiment partager son art, parce que du coup, c'est pas le tien.
Mais c'est marrant ce que tu dis sur l'égoïsme et l'écriture, parce que entre salle d'attente et lithopédion, on voit toutes les étapes du rappeur. C'est-à-dire, au début, c'est le flow.
Voilà.
Je vais vous montrer, les mecs, je maîtrise tous les types de flow, je vais vous en donner du flow, du flow, du flow. Après, tu rajoutes à ça de la punchline. Mmh. Ouais, super, ouais. La punchline. Et sur Lithopédion, les gens ont été choqués parce que, bah, justement, la punchline avait été, comme on dit, cut de fat. C'est-à-dire que t'as coupé l'artificiel et t'es rentré dans une écriture beaucoup plus complexe, beaucoup plus directe.
Bah, c'est marrant comment ça, c'est vraiment
tu vois,
une
tu
vision.
Tu comprends ce que je veux
ouais,
dire.
Ouais, je comprends totalement. Mais par exemple, moi, dans ma vision, c'est plutôt... Putain, faut que j'entraîne le flow, là. Et donc, du coup, je commence à entraîner le flow. C'est pour ça que je dis que c'est personnel. J'entraîne le flow dans salle d'attente. Je fais des... Il y a des flows incroyables que même maintenant, j'ai du mal à refaire. Et puis du coup, OK, je maîtrise le flow. Maintenant, il faut que je fasse des punchlines un peu. Ça, je maîtrise moi. Alors du coup, je travaille. Et quand je maîtrise le tout, bah, maintenant, je vais plutôt aller dans les types de refrains, les types de sons un peu... Enfin, je me comprends quand j'écris, je me vois encore
ouais,
comme
signalé. C'est la différence entre faire un morceau avec des punchlines et faire un morceau.
Ouais. Et après, dans Lithopédion, bah, du coup, comme je maîtrise toutes ces facettes-là, bah, je vais aller encore dans un truc, me mettre pas en difficulté, mais là où je connais pas, en fait. Et recevoir des prods un peu différentes, comme Festival de Rêve, c'est tellement différent, ce sont d'années. Julien... Enfin, il y en a d'autres, Tarlana, et tu testes un truc un peu, t'es un peu défoncé, bizarre, tu sais pas vraiment. Et c'est des trucs, c'est à chaque fois des pour moi, la musique, c'est des expériences. Et que ce qui est bien, c'est que c'est à l'infini, tu peux toujours découvrir demain, sauf que le public, lui, va te juger. Mais que pour moi, quand je fais un son, si t'aimes ce style de son-là, réécoute-le, parce que je vais peut-être aller dans un autre truc après. C'est ça que j'aime bien, c'est des expériences de fou, quoi, tu vois. Julien, c'est une expérience de malade. Et c'est kiffant, je me fais plaisir.
Parce que Julien, c'est... T'es rentré dans la psyché de quelqu'un qui aime les gosses. De dire pourquoi ces gens-là en arrivent là.
Ouais, je suis rentré surtout dans... Enfin, je suis rentré nulle part. Je crois que j'ai surtout expliqué quelque chose que tout le monde sait, mais sauf qu'on n'a jamais su vraiment l'expliquer ou juste le dire. Parce que quand t'écoutes le son vraiment, bah, c'est tellement évident. C'est évident en fait qu'il y a des pédophiles un peu partout et que tu sais pas à quoi ils ressemblent.
T'avais quel âge en Belgique quand il y a eu le scandale du trou, toi?
J'étais pas en Belgique.
T'étais pas encore en Belgique?
Non, j'étais pas en Belgique, j'étais à Kinshasa.
Des gens t'en ont parlé de cette affaire?
Juste un pote qui venait de Belgique. Mais on était trop petits, on était jeunes un peu. Mais je pense un pédophile, tout le monde sait qui est un pédophile. Mais sauf que ce qui est tellement bizarre, c'est que. Bah, on fait semblant comme si en fait il n'était pas. Pas vraiment nombreux et comme si en fait il n'y avait rien, alors qu'en fait si, ils sont vraiment tout près, tu sais pas qui, de quoi, comment. Et puis je me suis renseigné, les pédophiles abstinents, il y a pas mal de choses qu'en fait qu'on ne sait pas, et du coup bah, si on ne sait pas, on ne sait pas vraiment protéger nos enfants. Moi j'en ai un maintenant, et que tu te rends compte qu'en fait on est dans un déni total en fait. Qu'il faut le savoir, il faut même, je me dis, ce serait bien de prévenir aussi ces enfants qui captent vraiment, parce que c'est eux qu'on laisse à la garderie, c'est eux qu'on laisse... dans des endroits où, à la place de les prendre, on va bosser, mais on les laisse à quelqu'un d'autre qu'on connaît pas, tu vois. Ici, il a déjà des réflexes, c'est déjà pas mal d'appeler, de se débrouiller déjà s'il y a un problème, de comprendre qu'il faut pas aller avec n'importe qui, parce que ce sont des pédophiles, un point, un trait, et que c'est pas, faut pas dire « le monsieur là-bas, il est un peu dangereux », non. Tu dis clairement les choses sans entrer dans les détails. Et c'est en pensant à tout ça, ça m'a aussi inspiré. Puis après, je suis allé encore plus loin, je suis allé dans des qu'on se ment en fait, on juge tout le monde, on sait pas qui on est vraiment, on sait pas qui est son voisin. Finalement, on juge par rapport à qui, par rapport à nous. Ça, je suis parti dans des trucs comme ça.
T'as conscience que le fait-le-vie du refrain, quand il va être joué sur scène, dans ton public, mm-hmm. il peut être cathartique pour des gens qui ont été victimes d'abus?
Bah, en fait, ce qui est particulier, c'est que j'ai reçu, pour l'instant, des messages, je citerai pas son nom, mais quelqu'un qui m'expliquait que, par exemple, en écoutant cette chanson, elle était... m'a remercié, par exemple, je ne comprenais pas, mais qu'elle me disait que son père avait abusé d'elle. Et que justement, c'était tellement fort qu'on a refusé de la croire. Et que le fait que je puisse dire dans le son que ça peut vraiment être n'importe qui, que c'est un message qui, chez elle, c'était impossible. Que ça pouvait être que monsieur XYZ, mais jamais quelqu'un de la maison qui... vit avec nous, dort avec nous, mange avec nous. Et que j'ai reçu quelques messages comme ça, mais je peux pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de... Je sais pas comment les personnes vont le prendre si je le dis dans une interview. Mais j'ai plus reçu des messages comme ça.
T'es préparé à te la prendre, cette émotion, quand tu vas jouer ce morceau?
je prépare rien du tout, je prépare à kiffer. Et que si ça passe pas, ça passe pas. Et que si ça passe, ça passe.
Non, ça passe dans le sens où le fait de vivre peut faire du bien aux gens, ça peut les libérer d'un truc. Il n'aura pas le même sens pour tout le monde dans ta salle. Si tu prends les statistiques...
Bah tu vois, là, c'est le chroniqueur qui pense comme ça, tu vois. L'artiste, c'est différent. Moi, c'est artistique. Je sais où je vais, je l'exprime d'une certaine façon. C'est les gens qui viennent me dire « Putain, super, l'album, trop cool, je l'écoute. » C'est pas moi, quoi, tu vois. Moi, je dis « Bah, big up. » Après, je continue mon chemin. Moi, j'ai pas... c'est pas méchant, mais... Putain, je vais pas rentrer là, ok, ça a fait du bien à autant de personnes, donc là, en fait, on va vraiment faire du bien. Non, si je veux faire du bien, je fais la fondation, l'orphelinat, là, oui, je vais faire du bien, tu vois. Là, ça me parle, j'ai envie de faire du bien. Mais c'est pas dans mes sons, je... moi, ce sont mes sons, quoi. Je les poste, et puis si t'aimes pas, t'aimes pas, si demain, c'est numéro 1, c'est numéro 1, c'est numéro 1, c'est numéro 2, c'est numéro 2, ou pas. Voilà, j'ai publié le truc, vous kiffez pas, c'est plus mon problème, en fait, limite, j'ai envie de dire. Mais si j'ai envie de faire du bien, je vais là-bas, je tends la main, je fais des associations et autres.
Tu peux me parler de la fondation ?
Ben, comment c'est venu ? Déjà, c'est quand j'étais à Kinshasa. Et j'étais allé pour un mariage. Et en partant, t'as un mec... donc, je faisais des photos avec plein de gens, vraiment de toutes les classes sociales. Puis t'as un mec, c'est un cordonnier. Donc, c'est le mec qui répare et qui cire les chaussures dehors. Et je le vois, il est au loin, enfin je faisais des photos, il y a des fils, il y a plein de gens, c'était une catastrophe. Et je le vois vraiment essayer de se laver les mains, un truc. Je commence à comprendre qu'il va venir et il remonte son pantalon, il regarde un peu, il demande aux gens ça va, etc. Mais je le vois pendant que je fais des photos, tu vois. Il se lave, il se nettoie vraiment, il se regarde, il hésite, il me regarde, tac, il a pas de téléphone. Et toute la scène, je suis en train de la voir. Et il demande à un mec de prendre enfin, un téléphone pour truc, je crois qu'il s'arrange. Et il vient, et je devais partir à ce moment-là parce que les gardes, il y avait trop de monde. Et puis je bloque, je dis non, qu'ils viennent, tu vois. Et puis je le pointe du doigt et je le vois, mais d'une autre émotion. Et on fait la photo, et il savait même pas faire le vivre, vraiment, il bégayait, tu vois. Et ce tilté, je me suis dit, putain, c'est le mec quand même, il connaît pas, tu vois, et il a un respect tellement fou. C'était trop fou, c'était un respect tellement... Je vais pas mentir, ça m'a touché. Je suis rentré dans la voiture après, c'est resté dans ma tête, on a pris l'avion, c'est resté dans ma tête. C'est resté, puis un soir, je me suis dit, tu sais quoi, nique sa mère, j'ai fait une adresse mail, et j'ai posté comme ça, et puis c'est parti, quoi. Et là, on est encore au début, on est en train de voir, comme je suis avec la tournée, je fais les choses étape par étape. Et après ça, je vais vraiment commencer à m'investir, aller voir les gens, rencontrer les gens. Et on va faire quelque chose de bien, ouais.
Ça te fait quoi de revenir là-bas avec ce statut, vu ce que t'as vécu enfant là-bas ?
Je suis pas très... C'est pas trop mon truc d'avoir des émotions comme ça. C'est pas trop mon... Je suis pas là en me disant, waouh, putain, d'où je viens, c'est pas mon truc, je m'en fous un peu, je t'avoue. C'est juste kiffé. Il y avait beaucoup de gens, c'était parfois oppressant. Mais j'ai pas ce truc-là de la nostalgie, de trop « waouh ». Puis je l'ai quelques secondes, quelques minutes parfois, quand je suis dans un endroit particulier. Mais je l'ai pas vraiment, je suis pas très nostalgique comme mec. Ça me parle pas, la nostalgie.
Et le futur ?
Mais je vais...
Parce qu'on a l'impression que si t'es pas nostalgique, le futur, ça t'obsède.
Bah, j'ai vu dans une interview que quand je vois le futur, c'est surtout tout faire pour qu'on ait besoin de moi. Et pour qu'on ait besoin de moi, il faut que je sois le meilleur. C'est comme ça que je vois le futur. Si je suis une merde, on n'aura pas besoin de moi. Parce que le futur, c'est l'aide, en fait. Pour moi, je vois ça comme ça. C'est toi en meilleur. Et si c'est toi en meilleur, c'est un toi qui va toucher plus de monde ou aider plus de monde, etc. Si tu penses au futur, tu es obligé de penser un peu aux gens. Donc, je dois être... Juste chaud, plus talentueux, plus soit un meilleur père, soit tu vois, ce genre de choses. Mais c'est tout. Le présent m'intéresse plus, en fait.
T'arrives maintenant à être ancré dans maintenant ?
Ouais, bon, maintenant, avec quand même une vision de 2019. Mais c'est...
C'est ça.
C'est ce truc-là que j'aime bien, en fait. Ce travail-là.
Ça revient au cerveau qui tourne tout le temps.
Ouais, c'est...
J'ai pas l'impression que tu fasses une action sans calculer les conséquences des conséquences.
Ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Mais je pense que c'est comme quand tu mets je sais pas moi, ton verre dans un endroit où tu sais que si quelqu'un va passer, il va le cogner, ça va tomber, et que si ça tombe, tu seras obligé de passer la serpillière. Alors autant le mettre plus loin. C'est comme ça que je vois toute ma vie, c'est toujours comme ça. Si je fais ça, ben ça et ça et ça et ça, donc autant en faire ça. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me pollue, qu'on me parle d'un truc inutile, ça me dérange en fait. Parce que je vois pas comment je vais calculer un truc. Mais c'est, je suis pas fou non plus, quoi, tu vois.
Non, c'est pas peu, être fou.
Peut-être, ouais.
Non, je pense que les fous, c'est ceux qui pensent justement pas aux conséquences.
Parfois c'est bien, hein. Parfois c'est kiffant. Moi je vois des mecs, je me dis putain, j'aimerais bien quand même parfois un jour me lâcher un peu comme ça, c'est kiffant.
Bah, tu connais l'expression imbécile heureux?
Ah, clairement. C'est... tu vois le mec, il s'en bat les couilles de tout, et qu'il est bien. C'est pas plus mal aussi. C'est vers là que j'ai envie d'aller, mais sans m'en battre les couilles, mais être juste serein, tu vois. Plus trop dans des calculs.
T'aimerais bien être teubé, quoi, et heureux.
Heureux et intelligent, peut-être, ce serait pas mal.
Est-ce que c'est possible?
Ouais, ça dépend comment on est intelligent. Sage, peut-être, ouais. Quand t'es... Ouais, je pense que c'est ça, la sagesse. Quand t'es sage, t'es serein. Quand
t'es pas imbécile, forcément heureux, t'es heureux. Souvent, quand t'es sage, t'es pas forcément heureux, t'es résigné. Souvent, les sages sont résignés, ils ont... Il y a plein d'émotions qui, toi, pourraient te rendre heureux que les sages ont abandonné.
Non, je pense que ça, c'est ta vision de la sagesse. Pas du tout. C'est quoi, quand tu dis résigné, pas du tout. T'as un exemple, je sais pas.
Le maître du chevalier du dragon sur sa montagne.
Je pense qu'on a une vision de la sagesse qui n'est pas pareille. Moi, le sage, c'est celui qui sait déjà qui sait pas. Et à partir de ce moment-là, il est capable d'apprendre de tout le monde. Rien que cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mis mon ego de côté. Si j'ai mis mon ego de côté, bah, je suis serein parce que je m'en fous de me tromper, parce que ça me fait rien. Je m'en fous que quelqu'un sache mieux que moi, j'ai plus trop la honte, j'ai plus trop ceci, j'ai plus trop cela. Je suis bien en fait. C'est ça, moi, la vraie sagesse. C'est pas la barbe blanche et les histoires compliquées. C'est plutôt ça.
T'as déjà rencontré un sage en vrai?
Ouais, de fou, ouais, j'ai rencontré. J'ai un oncle à moi qui est comme ça.
Et comment? C'est quoi sa vie?
Bah, il est prêtre, il va dans des missions, il vit avec rien du tout. Et la manière dont il m'a expliqué le racisme, j'ai dit waouh, parce qu'il était à Rome, là-bas il y a beaucoup de racisme. Enfin, je suis allé là-bas quand j'étais plus petit. À ce moment-là, en tout cas, il y en avait beaucoup. Et il avait une façon de... Ben, c'est pas qu'il s'en foutait, c'est qu'il comprenait la situation dans laquelle il vivait et il acceptait avec bonté. J'ai jamais vu ça. C'est un mec, j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est des exemples, ouais. C'est...
Comment est-ce qu'il t'a expliqué le racisme?
Il m'avait dit que c'était des ignorants qui avaient peur de leur propre image et c'est pour ça qu'ils reportaient leur peur sur les autres. Mais comme ils n'avaient pas assez de connaissances, ils la transformaient en quelque chose de négatif. Pour moi, c'est incroyable. Quand on te dit ça comme ça, tu te dis « Waouh, putain, t'es à un autre niveau. » T'es à un autre niveau. Moi, c'était la bagarre. Lui, quand il a dit ça, je dis ouais. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un regard, j'essaie d'avoir ce regard un peu différent, mais faut avoir un niveau de sagesse un peu beaucoup élevé, quoi.
Tu te sens plus en paix que quand t'as démarré aujourd'hui?
Je me sens comme avant de démarrer là maintenant.
Sans enjeu?
Ouais, je me sens chaud. Je me sens vraiment chaud. J'ai trop de flow là, c'est incroyable.
Parce qu'en vrai, ton troisième album n'est pas sorti.
En soi, ouais. En soi, si on prend les choses comme ça, si on prend en compte que Batterie Faible était une mixtape, ouais. Mais ouais, je me sens bien. Je pense que ça change, moi-même je le ressens dans mon intonation, dans le ton de ma voix. Je suis bien, même si j'ai des nerfs aussi, parfois il y a des trucs qui se passent, ça m'énerve. Mais je suis bien, ouais, c'est cool. Je fais du sport, je bois moins.
T'as enregistré le troisième album?
Ah non, ça c'est toi qui le dis. Mais je fais du son, je kiffe.
Tu commences à faire du mystère en interview sur troisième.
Ah voilà, tu tu vas changer le titre de l'interview. Non, c'est...
Non, je pense que l'interview va vraiment s'appeler « Tout se passe comme prévu, sauf ce qui est imprévisible ».
Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un vrai titre. Mais pas de troisième album, j'ai rien dit. Si on parle du troisième album, je vais dire Lysopédion. Je vais faire la promo pour la tournée quand même. Venez nombreux. Mais ouais, c'est... Je suis dans un bon mood en fait, de vrai. C'est kiffant.
T'écris, moi je t'ai jamais vu comme ça dans un interview là, t'es...
Ouais, je suis cool, hein. Je suis bien. Ouais, c'est vrai, je me sens bien. Ouais, de vrai. C'est kiffant.
Grave. Ouais. Non, mais surtout, je suis content parce que tu es la première interview de notre chaîne. Qu'est-ce que toi, t'aimerais voir sur une chaîne de télé?
Je regarde pas la télé.
Bah justement, on fait une chaîne de télé pour ceux qui la regardent plus.
Sur une chaîne de télé, je suis pas la bonne personne, moi, à part, je regarde vraiment rien. Je regarde juste une série pour me détendre. Et puis j'écoute des prods, je lis des bouquins, ou je fais autre chose, ou je réponds à des mails, ou je suis dans la vie active. J'ai plus le temps, mais j'essaye d'imaginer à l'époque, ouais, des séries, des trucs un peu... Mais je pense qu'il y a déjà des chaînes comme ça, non, je sais pas.
Il n'y a pas de chaîne comme la nôtre encore.
Ah ok, cool.
Tu viendras, déjà t'es dessus.
Bah c'est cool. Je suis désolé, je regarde pas vraiment la télé, mais je regarderai l'interview aussi, je regarderai. Mais je...
Et les vacances, ça te parle ou pas? Ça paraît absurde comme question.
Bah ouais, c'est... On dit que je dois en prendre, mais ça me parle pas trop. Je suis parti, vite fait.
Mais je... Oh, le regard, il est parti loin.
Ouais, je traîne pas, ça me fait chier.
J'ai l'impression que je te dis mange des légumes verts.
Ouais,
je te dis
prendre
des vacances.
Ça me fait chier. C'est lourd. Je comprends pas pourquoi je dois prendre des vacances, en fait. Dès que je suis là, c'est bien le premier jour, parce que toi-même, tu te mets dans le mood, je dois prendre des vacances. Donc, du coup, tu te
promènes,
voilà, tu fais un truc. Après, tu vas fumer une chicha tout seul, en mode je suis en vacances, il y a un délire. Mais après, tu te fais chier au
deuxième
jour.
C'est la faute de la chicha.
Ouais, puis c'est nul, parce que je sais que si je vais vraiment, vraiment... Puis je me fais chier, après je vais aller en vacances. Moi, je kiffe mon métier, je kiffe ma vie, tu vois. J'ai pas besoin d'aller en vacances. Maintenant, c'est bien, ça m'aère le cerveau. Il n'y a rien à dire, parce que ça m'a aidé à écrire des textes de fou. Mais c'est tout. Je pense que je vais prendre des 48 heures, comme on dit avec Santos. On part en 48. On prend 2 jours, on fait plus rien. Bon, on se ment un peu à nous-mêmes pour dire que on est en vacances, c'est trop bien, yes. Après, on revient et on travaille, quoi.
Et cette histoire de mixtape, elle sortira ou pas?
Franchement, je vais pas faire le mec mystérieux ou pas. C'est juste que si j'ai envie de kiffer la musique, je me dis, je vais pas revenir si je kiffe pas la musique. Je vais pas revenir si je suis comme un... Bon, déjà, je suis pas parti vraiment, mais je vais dire, j'ai pas envie de... Le titre Calf, comme les gens l'ont vu, c'est un truc qui n'est jamais sorti. C'est un bébé que j'ai vraiment travaillé et je me dis, je peux pas revenir dans un mood dans lequel je suis pas. Et ce mood-là, c'était un mood de musique, quoi. Je kiffais, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de... Je kiffais, j'étais dans une énergie vraiment folle. Et que si je la redécouvre, c'est pour ça que je disais dernier album ou peut-être pas, l'année on nous dira, parce que j'ai envie de redécouvrir la musique comme je kiffe là maintenant. Et qu'avoir un fils, pour moi, jamais j'aurais pu rapper avec mon fils dans mon salon. Maintenant, je le fais, je kiffe, mais c'est des trucs... Tu sais, tu t'interdis des petites choses parce que la vie avance. Là, maintenant, je me dis, ok, je kiffe, je rappe avec mon fils, je fais des flows, il comprend pas, mais toi, je redécouvre un peu cette musique-là, je mets le volume à fond. Et je marchais beaucoup à l'époque, maintenant, je peux plus trop marcher. Si je suis en France ou ici, je peux pas marcher. Donc, c'est là que je prends les mini 48 heures pour marcher, écouter du son dans mes casques, et personne ne me dérange. Quand je marche, je suis ailleurs. Alors du coup, tu redécouvres ça. Puis je rappais fort aussi avant. Maintenant, tu rappes dans la rue, on te voit comme un fou. Mais si je suis dans mon parc, avant j'avais des parcs précis et tout. Et je rappais fort.
Ah ouais, t'avais spoté des parcs à rap?
Ouais, mais bien sûr. J'avais des endroits particuliers. Et que j'ai envie de redécouvrir ça. Et quand je serai dans ce mood-là... Ah ouais, là, oui. Si je le retrouve jamais, ça sert à rien. Ça me parle pas.
Donc là, t'es dans le bon mood, ce qui est quand même une nouvelle enthousiasme.
Ouais, je suis dans le bon mood, ouais, c'est de fou, là, je suis bien, ouais. Je le sens bien, bien sûr.
Tout à l'heure, on écoutait Kenji. Il y a quelque chose que... Enfin, je pense que ça va t'ouvrir la porte vers plein d'artistes. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est ces artistes qui ont besoin de toi. C'est le rap, aujourd'hui, est plus populaire que la variété française, que les artistes qui gagnent The Voice. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, plein de gens viennent vers toi pour te demander autre chose que du rap? Est-ce que c'est concret depuis Kenji? Parce que Kenji, c'est ça. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de Kenji, c'est sa culture. Il a grandi là-dedans.
Ouais, je pense que ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de filtres avant d'arriver chez moi. Il y a le management, il y a aussi Santos, il y a d'autres gens, parce qu'ils savent ce que j'aime déjà à la base, et que je suis fort dans l'humain. Si ça, donc du coup, ce genre d'informations, on va me dire si j'ai des tonnes et qu'ils savent très bien que c'est pas mon truc, c'est pas arrivé chez moi. Comme ça, ça me pollue pas le cerveau. Parce que c'est humain. Kenji, tout de suite, ça s'est trop bien passé et ainsi de suite. C'est toujours dans l'humain. S'il n'y a pas ça, ça m'intéresse pas.
Tu pourrais écrire pour des rappeurs?
Ça me ferait bizarre, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, j'ai pas de... Ouais, en fait, c'est, pour moi, c'est plus écrire, c'est collaborer, tu vois. C'est ça, c'est pour ça qu'il ne fait pas la
c'est
même chose.
C'est plutôt réaliser, quoi.
Ouais, voilà, s'il y a un rappeur aussi, mais qui a un bon esprit, et que je comprends le mec, du coup, on collabore, on travaille.
Imagine que t'as Mylène et tu dis, voilà, je te donne ce flow, faut que t'arrives à apprendre ce flow, que tu rappes comme ça.
Mais du coup, ça sera pas fait comme ça, ça sera jamais fait comme ça. Bah, déjà, je vais essayer de comprendre sa voix, je vais essayer de comprendre... Bah déjà, où elle veut en venir, si elle veut aller nulle part, imaginons, bah ok, je veux quand même essayer de trouver un nulle part qui correspond quand même à ce que tu veux. Et du coup, on part comme ça. Ça aide à imposer des flows aux gens, parce qu'après, eux, ils le chantent après, tu vois. Si tu kiffes pas ce que tu chantes, moi, ça m'intéresse pas. Si t'aimes bien, que t'es dedans, que tu dis, ah ok, j'aime bien, alors ok, on y va, tu vois.
Si donc t'es prêt pour être producteur?
Ouais, j'ai toujours été prêt, hein. Ça c'est un truc que je kiffe.
Parce que ça c'est un discours de producteur.
Ouais, mais
c'est une question piège.
C'est un discours d'un mec qui aime la musique en fait, ouais. Tu vois. Si t'aimes le son...
Tu vas signer des artistes?
On verra, faut déjà que je prenne du recul. Signer un artiste, c'est pas des blagues. Enfin, moi la vision que j'ai de si je signe un artiste, c'est pas des blagues. C'est un mec, on va saigner le studio à un niveau t'es pas prêt, tu vois. On va essayer d'aller... encore plus loin que ce que tu penses. Comprendre les techniques de mix, comprendre ta propre voix, savoir qu'en fait cette prod-là, ça va mieux à ta voix que plutôt celle-ci. Et c'est ça. Si moi je dois signer un artiste, j'ai vraiment envie de passer du temps avec l'artiste. Et pour ça, il faut qu'il y ait une relation de confiance déjà, donc, parce que ça peut vite partir en couille. C'est ça que j'ai envie. Ce truc-là où de transmettre vraiment tout ce que j'ai de la musique. Même pas de le transmettre, en fait, d'aider la personne à faire l'album qu'il veut. Mais il faut déjà que j'aime son projet, sinon moi, je ne serais pas travaillé, ouais. Tu vois.
Où est-ce qu'on peut envoyer des sons pour toi, pour les gens qui veulent produire par toi?
Le problème, c'est que souvent, des gens, on voit plein de trucs, des messages
qui gentils. Qui n'ont rien à voir avec la musique.
Ouais, et du coup, ça fait péter la boîte. Mais c'est ça que je trouve dommage. Mais je ferai un communiqué quand j'aurai bien fait les mails, etc., etc., sachant que ça va déjà péter. Parce que c'est toujours ça qui se passe. À chaque fois, t'as des messages incroyables, des nudes aussi.
Donc là, t'es prêt à t'enfermer des heures et des heures en studio pour créer une relation avec un artiste pour en donner le meilleur?
Ouais, il faut aussi qu'on se rende compte. C'est pas mal de trucs, c'est aussi un truc de circonstance. Tu vois, si demain, bam, je croise un mec, il y a un truc, un feeling qui se passe, c'est bien beau quand on voit des sons, mais il faut connaître quelqu'un, il faut connaître un artiste. Hein. C'est pas moi comment je vois la chose, je dis bien. Pour s'enfermer avec quelqu'un, si la personne, par exemple, ne vise pas l'excellence, moi déjà, ça me fait chier. Si la personne va bâcler le travail, moi, ça va me faire chier. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu la personne, voir ses motivations, pour pas, en fait, faire tout le travail à sa place. Parce que le but est d'avancer, tu vois. Il faut que la personne ait la vision de se dire, putain, franchement, j'ai envie d'y arriver, mais je sais juste pas comment faire. Ah, ok, bah vas-y, viens, je vais t'aider. Si c'est juste pour percer, pour avoir des likes sur Instagram, je suis pas ce mec-là, tu vois. Zap, passe ton chemin. Ça sert à rien.
Dernière question d'Amso qu'on pose à tous nos invités.
Ouais.
T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique?
C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie.
Pourquoi pas toute la vie?
Parce que sinon c'est une famille.
Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Click X en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne Click TV.